C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Premier sujet pour les commissaires ce matin. On l'a vu hier, le premier ministre, M. Legault, par Facebook, avant que ça plante, a fait un petit message pour expliquer finalement que une forme de mea culpa qui avait manqué de compassion dans ses réponses, bon, sur le congé férié à l'occasion de la Journée nationale de vérité et de réconciliation, puis que le débat à l'Assemblée nationale n'était pas à la hauteur. Alors, est-ce que les excuses sont crédibles? Nathalie.
Oui, ben oui, absolument, c'est crédible. Ce n'est pas la première fois que François Legault fait ce type d'exercice. En fait, hier, il a fait son mea culpa, et c'est une de ses forces. Hein? C'est pas quelqu'un qui semble entêté dans la vie. Moi, j'adore ça. Les Québécois aiment bien ça. Les critiques à son endroit ont été très acerbes. En fait, l'argument de productivité pour justifier la non-tenue d'un jour férié lors de cette Journée nationale de vérité et de réconciliation était peut-être acceptable, mais pas lors de cette journée. T'sais, il aurait pu le dire le lendemain, ou le deux jours après. Alors oui, il a fait son mea culpa et il a dit, moi j'ai beaucoup aimé quand il a dit, lorsqu'il a écrit, c'est-à-dire sur sa page Facebook, Paul, comme premier ministre, j'ai le devoir de donner l'exemple, j'essaie sincèrement de le faire à chaque fois que je m'adresse aux Québécois. J'aime ça. C'est une déclaration digne d'un chef d'État. C'est exactement ce dont on s'attend d'un premier ministre. Et tu référais aux excuses, parce que dans ce cas-ci, il y a une différence entre le mea culpa et l'excuse, les excuses. Et on dit souvent que Justin Trudeau s'excuse, s'est excusé beaucoup, hein, au cours de ses derniers mandats.
Encore hier, au dimanche, là.
Ah, exactement, mais François Legault aussi s'est excusé à plusieurs reprises depuis octobre 2018. S'est excusé auprès de la famille de Joyce Echaquan. Après son décès, il l'a fait de façon formelle à l'Assemblée nationale. Il s'est excusé auprès des Premières Nations après le dépôt du rapport de la commission Vient, qui avait conclu en septembre 2019 que les Autochtones sont victimes de discrimination systématique. Il s'est aussi excusé pour le fiasco dans les CHSLD. Rappelez-vous, là, première vague, CHSLD, Run, c'était l'enfer. Alors, le premier ministre a cette capacité, effectivement, d'admettre ses erreurs quand vient le temps de le faire.
Luc, ben moi, je suis en partie d'accord avec toi, Nathalie. Je pense qu'il y a un fond de vrai. Il y a un fond de vérité, d'authenticité de M. Legault. C'est pas quelqu'un qui regarde de haut. Puis d'ailleurs, il n'y a pas avantage à tricher sur ses sentiments ou ses excuses, effectivement, parce que ça se sent quand ça... Et il le fait pas. Il le fait pas. Mais, par contre, c'est un geste hautement stratégique. Parce que... il en a raté une, là. C'est-à-dire que faire preuve de compassion, c'est comme la base pour tout politicien quand il arrive un problème. C'est une des clés majeures, tu sais, de la gestion de l'image. Et ne pas en avoir fait preuve le jour de la réconciliation, évidemment que c'était une erreur, puis qu'il l'a réalisé, puis donc il a corrigé. Mais sur le fond des choses, je pense pas que M. Legault a l'intention de changer d'un iota sa stratégie avec les communautés autochtones. C'est une stratégie qu'il a émise il y a longtemps, il s'y tient, puis il est vertement critiqué par Ghislain Picard pour cette stratégie-là. Et cette stratégie-là consiste à dire, moi je veux négocier avec les communautés autochtones sur la base d'ententes, comme l'entente, comme le traité de la baie James, par exemple. Il y en a eu 25 ententes comme ça dans le Canada, puis on en a deux au Québec. Et il veut poursuivre dans ce sens-là. Alors, ces ententes-là, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'avoir une entente multisectorielle avec des communautés autochtones, par exemple sur le territoire, les droits ancestraux, les transferts de capitaux, la protection des modes de vie. Dans l'entente sur la baie James, il y a une rémunération aux familles de chasseurs et pêcheurs, des choses comme ça, en échange du droit d'exploitation du territoire. Ou soit le passage de lignes de haute tension, des mines, de la déforestation et des barrages hydroélectriques, des éoliennes. C'est ça qu'il vise, M. Legault. Il a toujours dit que c'est ça qu'il voulait faire. Alors, il va pas se précipiter sur une modification du régime de gestion avec les Autochtones tant qu'il aura pas ça. Alors oui, faire des excuses, c'était nécessaire, d'autant plus nécessaire que, dans son jeu, sa carte à jouer, lui... est assez loin. Elle est pas, c'est pas une réponse automatique aux demandes de la commission Vient.
Ben Luc, première deux choses. La première, faut savoir que l'humilité en politique, là, c'est pas le fait de tous les hommes et les femmes qui gravitent dans ce merveilleux univers. C'est difficile de faire preuve d'humilité en politique. Dans le cas de François Legault, c'est bien qu'il le fasse parce qu'à 47% d'intention de vote dans les sondages, il pourrait devenir arrogant et ce n'est pas ce que son équipe souhaite. Pour ce qui est de ton point, Luc, il y a deux dimensions. La dimension, mettons, économique, ok, liée effectivement au fait de négocier des ententes avec les Premières Nations. La convention de la baie James à laquelle tu réfères, Luc, c'est une référence absolument extraordinaire dans le milieu. Écoute, c'était une innovation fantastique dans les relations Premières Nations-gouvernement à l'époque où elle était convenue. Rappelez-toi, là, c'est le début des grands barrages, c'est le chantier de la baie James. Bon, il y a tout un contexte qu'on pourrait discuter, mais enfin. Mais il y a aussi toute la dimension liée au racisme systémique. La commission vient utiliser le vocable de discrimination systémique. Ça demeure entier. Pourquoi François Legault veut pas aller sur le terrain du racisme systémique? Tu l'as dit la semaine passée, Luc. Parce qu'à un moment donné, on peut-tu être plus pragmatique, puis plutôt que s'obstiner sur racisme systémique, ce racisme d'État, racisme, peu importe, là, on peut-tu, dans le fond, passer à l'action, puis s'organiser pour que les membres de la communauté autochtone ne soient plus visés, ne soient plus stigmatisés dans notre société victime de discrimination?
Ben oui, mais bien que la commission n'ait pas utilisé le mot racisme systémique, elle a utilisé le mot discrimination systémique. Elle dit il y a deux types de discrimination. Il y a la discrimination directe, quand par exemple tu renvoies quelqu'un sur la base de sa couleur, de ses vêtements, de son allure, de sa religion, etc. Ça, c'est la discrimination directe. La discrimination indirecte, c'est lorsque le système produit la discrimination sans que ça soit conscient de la part des gens. Donc, ils n'ont pas été jusqu'à dire que c'est du racisme. Mais par contre, ils sont très, très, très exigeants. La commission est très exigeante sur les moyens à mettre en œuvre pour mettre fin à ça. Et le deuxième moyen à mettre en œuvre, la résolution 2 de la commission, c'est de reconnaître les nations autochtones et de négocier avec elles dans le cadre d'une relation de nation à nation. Ça, c'est la résolution 2.
T'sais, mais c'est pas la première fois qu'on dit ça, là. On a dit ça bien avant la commission vient.
Oui, je le sais. Mais c'est une... Ils se sont pas contentés de dire, ben il faudrait qu'on fasse de la formation pour le personnel pour voir s'ils pourraient. Non, c'est pas ça là. Ils vont tout de suite au cœur de leurs exigences, qui est on veut une négociation de nation à nation et on veut que ça soit mis en place tout de suite. Il y a 152 mesures. Dans ces mesures là, il y a par exemple des corps policiers autochtones pour chaque territoire. Il y a la possibilité d'avoir un système de justice qui soit géré par les autochtones. Il y a l'accès aux services de santé. Il y a la gestion de la DPJ par les communautés autochtones. Fait que je pense pas que M. Legault va aller nulle part. D'ailleurs, Yann Lafrenière, dans ce sens-là, Yann Lafrenière a donné des bonnes indications sur le fait qu'il s'en allait pas là, pantoute.
Alors, moi, j'ai envie de te dire, Luc, premièrement, le Québec ne contrôle pas tous les leviers qui lui permettraient de donner un coup de barre important. La preuve, c'est que la loi sur les Indiens relève du fédéral. Deux, c'est faux. C'est faux d'admettre que rien n'a été fait, Luc, parce qu'il y a des communautés autochtones qui ont leur propre corps de police actuellement, qui ont leur service de sécurité incendie, qui ont leurs écoles, qui enseignent la langue Wendat, par exemple, qui enseignent le Mi'kmaq, qui ont certains services sociaux développés dans leur communauté, entre autres, pour s'adresser aux problèmes de toxicomanie. La situation a beaucoup évolué depuis quelques années. Je te dirais, Luc, depuis peut-être 15 ans.
Oui, mais pas depuis
la maîtrise de leurs... On s'entend. Mais depuis 15 ans, 20 ans, le fait que les communautés maîtrisent leurs propres institutions, elles contrôlent leurs propres institutions, c'est un grand pas. Mais on s'entend, Luc, qu'il y a encore des pas de géant à faire.
Et moi, je pense que son agenda étant ce qu'il est, il devait faire des excuses. Puis parce que les excuses, c'est quelque chose de générique, de qui couvre toute la province, qui couvre toutes les communautés. Mais quand va venir le temps de faire des actions, à mon avis, il va être plus lent.
Au retour, on va parler évidemment des conditions de travail qui ont été modifiées hier pour les responsables de services de garde en milieu familial.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, de bonnes augmentations de salaire pour les responsables de services de garde en milieu familial, est-ce que ce sera suffisant pour inciter, principalement, on le sait, des femmes, là, à ouvrir dans leur maison des services de garde, à offrir des services de garde?
En tout cas, c'est une mosaïque de bonne affaire. Je suis pas sûr que ça va être suffisant. Sans doute que non, mais quelle bonne décision. D'abord, c'est une augmentation de 18%, mais elle suit une augmentation de 12% qu'il y avait eu préalablement dans l'année. Fait que c'est 30% d'augmentation. Les salaires sont très bas pour les intervenantes en milieu familial. On parle de 30 000, sans doute un peu plus. Mais bon, là, tu rajoutes un 10 000 d'un coup. Là, c'est 40 000, là, tu commences à t'approcher du salaire des intervenantes dans tous les domaines. Et les libéraux avaient proposé ce genre d'augmentation-là, mais plus modeste. Le gouvernement, il va à fond à la caisse. Très bien. Les libéraux avaient proposé une autre proposition que je pense que les caquistes devraient vraiment implanter aussi, c'est d'avoir une aide au démarrage. Ils proposaient 3 000 $ d'aide au démarrage, acheter des meubles, etc. Il faut plus que 3 000 parce que dans une maison, il faut que tu réaménages ta maison. Là, si tu consacres une pièce entière, ben il faut acheter des meubles, etc. Et donc, un peu plus que 3 000, mais en tout cas, ça serait des initiatives qui se complètent. Puis il y en a d'autres initiatives. Il y a eu 1 million qui a été mis par le ministre Boulet sur la formation des intervenants, une formation rapide qui est faite en cégep, de la publicité pour en attirer. Ça a fonctionné. Le projet pilote a fonctionné. Alors, il faut qu'on continue dans ce sens-là parce que les CPE, on sait maintenant que c'est la solution royale. Tout le monde veut que son enfant ait un CPE. C'est normal, mais ça se produira pas du jour au lendemain. Là. Il manque 37 000 places. Minimum, 42 000, mais là-dedans, il paraît qu'il y a des enfants qui sont pas encore à l'âge d'aller à CPE puis sont partis de la liste d'attente. Si on regarde juste ceux qui sont à l'âge d'être en CPE puis qui n'y sont pas, c'est 30 000 places qui manquent. Ben alors, 30 000 places qui manquent, et on sait que ça prend du temps pour construire les CPE, puis on sait qu'une fois qu'ils sont construites, on a un méchant problème de main-d'œuvre. Donc, la solution qui passe par le privé, le familial, va prendre de l'ampleur. J'espère que le gouvernement va lui donner de l'ampleur. Ne pas la tasser en disant, ben moi j'ai un objectif CPE long terme, donc on néglige l'autre possibilité. Le temps de la négligence est terminé, là.
Moi, Luc, j'ai envie de dire oui à fond la caisse, mon cher, sachant qu'il y a 51 000 enfants qui sont sur la liste d'attente pour obtenir une place. Alors, comme on dit, au grand mot, les grands moyens, oui, les responsables de services de garde en milieu familial doivent être très, très heureux ce matin, sachant que juste dans cette catégorie, parce qu'il y a 4 grandes catégories là dans les services de garde éducatifs au Québec, il y a une possibilité de un peu plus de 91 600 places dans le réseau, puis au 31 mars 2020, il y avait 69 119 places qui étaient occupées. Donc, l'annonce du gouvernement va peut-être inciter des femmes, des familles à se lancer dans cette business, je vais le dire comme ça, de service de garde en milieu familial. Pour ce qui est des parents pauvres du réseau, parce que la question, Paul, est-ce que c'est suffisant? En fait, pour cette catégorie de service de garde, probablement, mais tu l'as dit, Luc, pour les autres catégories, probablement que non. La preuve, moi, je pense que les grands oubliés actuellement du gouvernement et du ministre de la Famille, ce sont les garderies non subventionnées. Hier, j'ai reçu un appel de ICRAM, elle a une garderie non subventionnée. Le plafond qu'elle obtient du gouvernement pour ses places en garderie, que ce soit pour les poupons ou les 18 mois et plus, c'est 35 $. C'est plafonné depuis 10 ans. Mais ça lui en coûte beaucoup plus cher que ça. Ça lui coûte entre 44 et 48 $. Donc, elle est perdante. Et les parents également qui bénéficient d'une place en garderie non subventionnée doivent payer la différence entre ce qu'ils reçoivent du gouvernement en crédit d'impôt et ce que leur demande la propriétaire ou le propriétaire de la garderie non subventionnée. Vous voyez, c'est pour ça que les CPE sont les grands compétiteurs des garderies non subventionnées, ce qui fait dire à certains que ce que le gouvernement veut peut-être, de façon non officielle, c'est la mort des garderies non subventionnées. Ce serait un drame parce qu'actuellement, il y a 70 000 piastres dans le réseau des services de garde non subventionnés. C'est quand même pas négligeable. Alors, si le gouvernement voulait faire œuvre utile, il pourrait effectivement augmenter le plafond qui est consenti aux propriétaires de garderies non subventionnées. Également, augmenter le crédit d'impôt aux parents pour, avoir un certain équilibre entre les 4 catégories que sont les CPE, les garderies subventionnées, celles qui sont non subventionnées et les services de garde en milieu familial. Mais il faut saluer la volonté du ministre Lacombe. J'ai écouté une entrevue que tu as fait avec lui, Paul, un peu plus tôt, Mathieu Lacombe, il va déposer un projet de loi pour tenter, là, au cours des prochaines semaines, prochains mois, de boucler la boucle d'un réseau qui a fait une énorme différence dans notre société, qui est Écran 97, dont on ne pourrait plus se passer.
Oui, mais moi, justement, je pense que là, il a réalisé que, bien qu'on puisse plus s'en passer, ça va prendre du temps. Par exemple, maintenant, il donne plus d'horizon pour le comblement de tous les postes manquants. Là. Il dit plus ça va se faire d'ici 2 ans, comme il a déjà dit dans le passé. Là. D'ailleurs, les objectifs étaient passés de l'ouverture de 9 000 places. Après ça, il en parlait de 15 000 places, 22 000 places. Là, on sait que c'est 37 000 places à peu près qu'il veut ouvrir sur le très long terme, mais on ne sait pas on ne sait pas combien de temps ça va prendre.
Je t'annonce que l'horizon, c'est la campagne électorale. non, mais ouais, c'est ça. Ils vont faire un enjeu de campagne, je te le dis. Santé, place en garderie, ça va devenir des enjeux fondamentaux. Rappelez-vous, le message de la CAQ, c'était quoi? La classe moyenne, les familles.
Mais leur est tombé une tuile sur le bord de la tête, qui est la pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire que tu sais que les services de garde en milieu scolaire sont pas capables, ont beaucoup de la difficulté à boucler. Après ça, tu as les maternelles 4 ans qui vont ouvrir de plus en plus. Et donc, c'est tout le temps le même bassin de personnes. Là. Et la particularité des services de garde en milieu familial, c'est que tu es capable de régler ton problème de main-d'œuvre. Ce sont des personnes qui travaillent à la maison. La propriétaire, elle est à la manœuvre. En plus, elle est capable d'engager des gens dans son milieu familial pour faire des heures, deux heures ici, deux heures là, ou dans ses voisins, voisines. Et donc, est capable de trouver des solutions là où l'État n'en trouve pas en termes de main-d'œuvre.
Mais c'est pas toujours simple parce que il y a des parents actuellement là qui se cassent la tête. Là. Écoute, il y a Jean-Philippe qui nous a écrit cette semaine à l'émission. Là. Il est écoulé. Lui là, quand il n'y a pas de place en garderie, il peut pas faire garder ses enfants par les beaux-parents, par ses parents. Là, tout le monde travaille. Il dit, on a épuisé notre banque de congés maladie. Ça nous coûte de l'argent. On ne sait plus à quel sein se vouer. C'est un réel problème.
Oui. Moi, je te parle pas. Non, je te dis pas que les gens doivent faire garder les enfants par leurs beaux-parents. Là, je te dis la garderie familiale souvent est capable de régler ses problèmes de main-d'œuvre de façon un peu plus souple que la garderie, que le CPE.
Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est moins lourd en termes de structure. Je conviens tout à fait de ça avec toi. Tu parles du manque d'éducatrices en service de garde en milieu scolaire, 1357. Et là, on attend tous la réponse du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, parce que ça relève de sa responsabilité. Tu t'interrogeais pas ce matin avec Bernard. Il est bien tranquille, le ministre.
Il est tranquille.
Ouais, ben moi je pense qu'il a besoin d'un petite pause là. Il s'est pas mal brassé à la cage là. Écoute, il s'est fait dépeigner plus qu'une fois là au cours de la dernière année. Là.
Merci à vous deux. On vous retrouve demain matin.
C'est 23.